Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h05 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous, vous le savez, le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Si vous avez raté les deux premières heures, on débute à 9h. N'hésitez pas à aller nous réécouter en podcast. On a évoqué Vingegaard, le maillot jaune. Est-il un beau vainqueur? Vous n'étiez pas d'accord, les GG. On a parlé de Kylian Mbappé. Forcément, doit-il partir ou continuer le combat? Ou encore cette chronique magnifique de Pierre Amiche à propos de la dernière danse de Thibaut Pinot. Dans quelques instants, nous allons passer la seconde clap de fin, donc sur la grande boucle, avec la traditionnelle étape sur les Champs-Élysées. Les GG, il faudra me dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas cette dernière étape du Tour de France. 11h30, l'avant-match France-Jamaïque, le premier match des Bleus dans cette Coupe du Monde féminine de football. Le coup d'envoi est à midi. Nous serons avec notre duo de commentateurs, Anthony Reich et Élise Bussaglia. Direction le Japon, si vous le voulez bien. Vous le savez, le Paris Saint-Germain est en tournée actuellement. Ce matin, à 10h, heure française, il y avait une conférence de presse avec Luis Enrique et Marquinhos. On rejoint notre envoyé spécial, Fabrice Hawkins. Bonjour, bonsoir pour toi, Fabrice.
Bonsoir.
Fabrice, comment s'est passée cette conférence de presse avec, on l'attendait, des mots pour Kylian Mbappé?
Oui, effectivement, la conférence de presse s'est plutôt bien passée hein, dans cette salle de presse. On est dans un hôtel, il y avait à peu près une trentaine de journalistes. Alors, il y a eu pas mal de questions. D'abord, les protagonistes de cette conférence de presse avec Luis Enrique, avec Marco Asensio, Marquinhos, le capitaine, et donc Lucas Hernandez. Luis Enrique, évidemment, a parlé de jeu, a expliqué que cette tournée était là aussi pour faire une revue d'effectifs à ce niveau-là, bien se préparer physiquement avant de démarrer le championnat. Aucune question ne lui a été posée sur Kylian Mbappé. Ce sont nos confrères japonais qui avaient la main. Et puis ensuite, nous, on est quatre ici, un journaliste français. On a eu le droit à une seule question. Alors, vous imaginez bien, on en a profité immédiatement pour mettre les pieds dans le plat avec Kylian Mbappé. C'est Marquinhos qui s'y est collé. Et il nous a répondu, vous allez l'entendre, avec un petit peu de gêne. Mais en tout cas, il a répondu.
C'est une question délicate. C'est un joueur exceptionnel, un joueur très fort. Mais c'est une décision qui passe au-dessus de nous, les joueurs. C'est une question de la direction. Et bon, nous, on veut toujours avoir les grands joueurs à nos côtés. Et j'espère qu'on va avoir une bonne solution pour qu'ils puissent revenir dans le groupe et faire partie de nos groupes et nous aider dans cette saison.
Voilà donc la réponse de Marquinhos. Il n'a pas été questionné en plus en détail, plus en profondeur, mais on a senti en tout cas que c'est pas un sujet forcément sur lesquels les joueurs étaient à l'aise. On aura l'occasion d'en reparler avec eux tout au long de la semaine. Il y aura des points presse de prévu, en tout cas des entretiens individuels au moins.
Merci beaucoup Fabrice pour ces dernières informations en direct du Japon. Sachez que toutes les dernières informations concernant le Paris Saint-Germain au Japon, c'est à retrouver sur rmcsport.fr. Allez, on débute notre prochain débat avec cette citation de Jean-Louis Aubert qui a dit un jour, voilà, c'est fini.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Mais oui, le tour se finit. Et dans le peloton, aujourd'hui, il flotte comme un petit air de vacances et de fête aussi.
Ouh, en porteur. Ah non, c'est pas porteur d'eau aujourd'hui, le maillot jaune.
L'ambiance est bon enfant. Ici, pas de compétition. Et porter une réplique d'un des plus beaux maillots, c'est pas rien.
On a rompu la tradition, on n'a pas sorti les bulles.
Aujourd'hui, pour cette dernière étape entre Marne-la-Vallée et les Champs-Élysées, longue de 175 km, Indurain est resté tranquillement dans le peloton.
Juste pour dire que c'est pas autorisé de faire ça, hein. Mais bon, on est sur le dernier jour, on fait ce qu'on veut, visiblement.
C'est à qui fera la plus grosse bêtise, et à ce petit jeu, c'est Jacky Durand qui décroche le grelot. À égalité peut-être avec Christophe Moreau, très élégant lorsqu'il porte un casque de gendarme.
Ah, mais ils sont pas partis encore, là?
Non.
Ah, je croyais qu'on était à vitesse de croisière.
Tout doucement, sans faire de bruit pour pas qu'il plaît.
Sur cette magnifique musique, nous accueillons notre consultant vélo. Il a été avec nous durant tout le Tour de France à 11h. C'est Cyril Guimard-Ledruit. Salut Cyril.
Salut, bonjour.
Hello Cyril.
Salut, bonjour. C'est la première fois que je l'entends, celle-là. On dit au revoir, bonsoir aussi.
Je suis sorti hier soir, justement.
Alors, la 21e étape aujourd'hui va marquer la fin de ce Tour de France 2023.
Est-ce bien une étape?
une 21e étape, justement, entre Saint-Quentin en Yvelines, oh, tu vas me régaler, et les Champs-Élysées, une dernière danse pour du beurre, ou presque, le tour est joué, vous le savez, les coureurs vont pouvoir parader sur la plus belle avenue du monde, après plus de 3000 km d'effort. Une dernière étape, c'est dans la tradition promise aux sprinteurs pour une victoire de prestige, même si l'intérêt sportif pour le grand public reste toutefois assez relatif. La musique qui fout les jetons, et cette question. La dernière étape du Tour de France, j'aime ou je déteste? Marion Bartoli.
J'aime.
Cyril Guimard.
J'aime pas.
Marie Martineau.
Moi j'aime.
Pascal Duprat.
Et j'aime également.
Il est tout seul, peut-être dans les cordes, quoique c'est mal le connaître. Cyril Guimard, pourquoi tu détestes?
Bien, parce qu'une course, ça se termine à l'arrivée de la dernière étape, comme logiquement, ça doit commencer au premier départ de la première étape. Voilà. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je déteste les prologues sur les courses à étapes. Bien, parce que je vois pas pourquoi on arrête le classement la veille de l'arrivée. Ça me paraît débile, honnêtement. Ça n'a pas de sens quand je vois par exemple Vincent Lavenue qui tance un de ses coureurs parce qu'il s'est arrêté dans un col danser quelques secondes avec en disant c'est pas une belle image pour le vélo, de voir des coureurs au départ de la dernière étape s'enfiler des bières et des coupes de champagne. Vous savez que pour Jumbo c'est un poison, alors je sais pas ce qu'ils vont prendre. Non, il y a un départ, il y a une arrivée, on respecte la compétition. En plus de ça, vous arrivez sur les Champs-Élysées, là vous avez un super spectacle effectivement pour savoir qui chez les sprinters va s'imposer. Mais encore, s'il y a le moindre petit problème, on arrête même les chronos à l'entrée des champs, c'est-à-dire à 7 ou 8 tours avant l'arrivée. Alors, il faut l'appeler parade, mais ou pas... vous l'appelez étape du tour, mais si c'est une parade, ok, alors c'est une parade, et là je suis tout à fait d'accord, mais le classement il est arrêté le samedi soir.
Ok, c'est une parade et c'est pas une étape. Vous répondez
c'est
quoi
pas une, à... c'est pas une compétition.
J'ai pas mal de choses justement à te demander, Cyril, mais juste avant, le point de vue des DGG, vous répondez quoi? Oh, je sens, il fait la moue, Pascal.
Ouais, on t'entend.
Ouais, Cyril, vous savez le respect que je vous voue, mais...
Ça part mal quand c'est comme ça. Hein.
Oui, non, ça part très très mal.
Ils ont pas le temps de savourer. Oui, ça fait 20 jours qu'ils en chient comme des damnés, et voilà pas que vous voudriez qu'ils se mettent
la pâtée, mais c'est déjà arrivé. Rappelez-vous quand Bernard Hinault et Zob Zoutemelk arrivent seuls sur les Champs-Élysées et vont se disputer la victoire à deux, ça avait été la castagne dans la vallée de Chevreuse.
Oui, mais parce que c'est
ça, ça vous pouvez plus le voir.
Le classement le justifiait.
Voilà,
le classement le justifiait.
Non, c'est Zoutemelk. Mais non, il n'y a pas 7 minutes, ok. Mais même s'il y a 20 secondes, ils vont faire la même chose.
Aujourd'hui, il y a 7 minutes.
Oui, mais s'il y avait 20 secondes, ils auraient fait la même chose. Ça a déjà été fait.
Et donc la compétition, elle ne prévaut certes que par le sprint, qui va être majestueux sur la plus belle avenue du monde. C'est aussi pour ça que cette parade, cette étape, eh bien, elle nous passionne.
Non, c'est parade, pas étape.
Et vous êtes le spécialiste, et nous sommes les passionnés de sport, et c'est une parade étape pour moi. Voilà. C'est pas parade riposte.
Pour moi, c'est le Tour de France, voilà, et il s'exprime au travers de cette dernière étape qui est, si je dis pas de bêtises, la seule qu'on a chaque année. Chaque année, le Tour part d'un endroit différent. Il passe par l'école en Savoie ou dans les Pyrénées, mais par des chemins différents. Voilà, il y a toujours de la nouveauté, et ça, c'est un point de repère. C'est comme ça, et typiquement, ma fille qui a 13 ans a commencé cette année à suivre un petit peu le Tour. Là, elle est sur Paris, elle est très heureuse, alors que bon, elle n'a pas non plus compris la moitié de ce qui se passe dans les enjeux du vélo, mais elle est contente qu'on aille au champ voir ce truc-là, parce que ça attire du monde, de la foule. On est sur cette belle avenue qui, il y a deux semaines encore, était fermée pour faire le défilé du 14 juillet. Enfin, il y a quelque chose de très... je pense même pour les étrangers qui sont dans le peloton, faire cette arrivée à cet endroit-là, même s'ils se sont filé une coupette de champagne sur les premiers kilomètres, ça reste un truc... ça fait partie du sport aussi.
Ça, on est bien d'accord. Mais moi, je vous demande votre sensation, votre sentiment. Est-ce que vous aimez cette étape? D'ailleurs, ça fait 48 ans. C'était depuis 75 que l'on arrive sur les Champs-Élysées. Avant, c'était au Parc des Princes. Pardonne-moi, Marion, mais j'imagine que tu as d'autres choses à dire. Toi, tu l'aimes. cette étape.
Moi, je l'adore cette étape parce qu'effectivement, en fait, je vais faire une synthèse de ce que Pascal et Marie ont dit. D'abord, ceux, on va dire, qui ont déjà gagné le tour, surtout en plus quand t'as 7 minutes 30 d'avance, alors là, franchement, il n'y a plus grand chose à jouer. Ils en ont chié pendant 20 jours. Ça a été compliqué, ça a été difficile de voir l'image où toute l'équipe gagnante est bras dans les bras ou bras dessous, arriver tous en même temps et passer la ligne des Champs-Élysées. Je trouve l'image absolument magnifique. Le sprint, moi, ça me passionne. Donc, effectivement, de voir Philippe Sen l'année dernière qui s'était imposé, de voir ces sprinteurs, là, comme ça, tourner dans Paris et arriver à s'expliquer sur cette dernière étape, pour moi, ça me passionne. Et effectivement, il y a une espèce de pacte de non-agression où on se dit que les temps accordés auparavant ne sont plus disputés. Malgré le fait, il y a quand même trois fois dans l'histoire du Tour, en 47, 68 et 89, où la dernière étape a été décisive, et en particulier en 89, où c'est Greg LeMond, un Américain, qui a battu...
C'est pour ça, Cyril, que vous n'aimez pas cette dernière étape.
Sur le fil. Donc, il ne faut pas dire que ça n'a jamais été joué. Mais il est vrai que depuis... que l'arrivée se fait sur les Champs-Élysées, donc depuis 75, il y a une espèce de pacte de non-agression où le classement effectif avant le début de cette étape reste le même sur la fin. Mais moi, j'adore cette étape de sprint et je trouve qu'effectivement, l'arrivée, alors on va faire un peu cliché, mais le kino panorama d'arriver sur les Champs-Élysées à la fin, je trouve ça absolument sublime.
Mais justement, on ne peut pas reprocher à Cyril Guimard d'être partie prenante dans ce débat parce que lui, son coureur Laurent Fignon, a perdu sur les Champs-Élysées lors
de
la
dernière année. Oui, mais c'était un contre-la-montre.
Mais c'est un...
Ça n'a rien à voir.
Et
j'ai vu personne au départ du contre-la-montre boire une flûte de champagne ou une bibine, quoi.
Mais justement, Cyril, est-ce que tu voudrais... Je vais vous faire écouter Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, car l'année prochaine, en raison des Jeux Olympiques, vous le savez, le Tour de France arrivera à Nice. Et pour la dernière étape, il y aura un contre-la-montre de 35 km entre Monaco et Nice. Christian Prudhomme, et on en parle juste après.
Le cadre de Nice, de Monaco, de l'arrière-pays, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais exceptionnel par la beauté, mais exceptionnel aussi par la difficulté ou les difficultés que l'on peut proposer aux coureurs. Et il faudra voir le final de ce Tour 2024 comme une sorte de feu d'artifice, un seul contre-la-montre final entre Monaco et Nice, 35 km. Là aussi, avec du dénivelé, près de 700 mètres sur le contre-la-montre, avec la montée jusqu'à la Turbie. C'est une longue montée d'une pente assez moyenne. Derrière, une montée plus courte, mais très très raide, pour aller au Col d'Aise. Et ensuite, on plonge vers la mer, on plonge vers Nice, la promenade des Anglais, la place Masséna, pour une arrivée, sans aucun doute, unique, de la 111e édition du Tour de France en 2024.
Cyril Guimard, c'est ça que tu veux pour les dernières étapes? Typiquement.
Mais moi, je veux une vraie étape, qu'elle soit en ligne ou contre la montre, c'est pas le problème. Depuis 75, on arrive sur les Champs-Élysées. Il y a deux choses qu'il va falloir remarquer. C'est que les premières années, il y avait une vraie course. Et t'as des coureurs qui arrivaient à finir tout seuls, comme Eddy Seigneur, comme Alain Mellet, Vinokourov, ou je sais plus. Bref, t'en as trois ou quatre qui ont réussi à finir tout seuls. T'as eu de la bagarre qui est partie dans la vallée de Chevreuse. Et depuis quelques années, et ça a commencé avec la période Armstrong, comme par hasard, je me souviens, moi, au départ, bon, ça avait, et t'avais eu une attaque de Philippe Gilbert, qui a été réprimée. C'est pas l'étape où on attaque. Et tout Philippe Gilbert, qui était jeune à l'époque, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est remis dans la roue, il a fermé sa gueule. C'est pas ça la compétition. C'est pas ça la parade. C'est vous restez là, vous bougez pas, et on va comme ça jusqu'au champ, et au champ, on fait, on passe de la parade à. Bon, moi je suis désolé, je peux pas être pour ça. Le deuxième point qu'il faut savoir, et c'est peut-être pas anodin, je sais pas si vous vous souvenez, les premières années qu'on arrivait sur les Champs-Élysées étaient pleins.
Okay.
De l'Arc de Triomphe en bas. Là maintenant, vous avez autour de la ligne d'arrivée et ailleurs, vous n'avez plus personne. Il n'y a plus de spectateurs sur les Champs-Élysées. Alors, vous allez me dire, oui, il y a eu les attentats. Oui, il y a eu le Covid. Oui, mais c'était avant. C'était avant. Avant, les Champs-Élysées étaient pleins d'en bas jusqu'en haut sur 5 ou 6 fils.
Moi, j'ai souvenir. Alors après, ça remonte, hein, mais j'ai dû faire en 2005, 2006, j'ai dû faire l'arrivée sur les Champs-Élysées et je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de monde. Mais après, j'ai pas d'éléments de comparaison par rapport à 1980 ou 1990.
Mais vous avez du monde que dans les tribunes, les VIP, c'est tout.
Ah non, alors là, je te promets que à cette époque-là, je pouvais pas encore me le permettre.
Ah non, mais il y a ça fait presque 20 ans quand même.
Bon, il y aura toujours Denis Charvet pour boire du champagne. Ne vous inquiétez pas sur les Champs-Élysées. Non, mais revenons sur cette dernière étape là. Est-ce que ça vous plairait, les GG, d'avoir de casser un peu cette tradition des Champs-Élysées, d'avoir une étape, une vraie étape ailleurs, comme ça va se passer en 2024, Marie?
Bah, si la course est serrée, j'ai envie de te dire oui, ça serait très excitant.
Oui, mais ça on peut pas le savoir à l'avance.
Ben voilà, c'est ça. Mais là, avec les écarts qu'il y a.
Là, par exemple, aujourd'hui, t'aurais pas voulu, vu les écarts, t'aurais pas voulu avoir un contre-la-montre ou une autre étape.
Bah non, enfin, je vois, ça n'aurait pas servi à grand chose, ouais.
Et puis, il y a aussi le poids de la tradition.
J'ai quand même un chiffre à vous donner.
Vas-y,
Marion. En 2010, Marion, sur l'arrivée des Champs-Élysées, il y avait quand même 310 000 personnes.
Oui, 310 000. Les années dont je vous parle, les premières années, c'était plus de 500 000.
Ok, très bien.
Mais il y a aussi le poids de la tradition, le Tour de France qui finit sur la plus belle avenue du monde. C'est la tradition, c'est pour ça aussi que le Tour de France est une épreuve unique, la plus belle épreuve de cyclisme au monde.
Le fait que ça arrive, c'est aussi, je pense, une question d'organisation. Tu pourrais difficilement avoir une épreuve classique, de type classique, avec une arrivée, avec peut-être une échappée ou un peloton qui remonte sur l'échappée et un sprint. T'imagines toutes ces personnes qui viennent s'agglutiner là et tu vois passer qu'une seule fois les gars. C'est le cas tout le Tour de France, hein, mais je pense que bloquer entièrement Paris, parce que là tu bloques, je sais pas, peut-être deux arrondissements complets pour ne les voir qu'une fois comme ça, parce que pour sur l'autel de la sportivité, il faudrait qu'on ait une dernière étape compétitive.
Non, mais tu peux avoir un circuit.
Pas sûr que ça fonctionne.
Tu peux garder l'idée du circuit, ça c'est très bien, de voir plusieurs fois Paris et tout ça. Enfin, c'est la renommée de la France, forcément, les images comptent, ce poids de l'image. Mais tu pourras avoir une vraie course. En tout cas, c'est ce que réclame Cyril.
Ok. Mais est-ce que Cyril, il y a d'autres gens qui le réclament dans le vélo comme toi? Qu'en pense le peloton? T'as une idée de ça?
Ah, les coureurs, ils sont contents, hein. La plupart. La plupart, bon, il n'y a pas de course.
Non, mais
okay. Vous
profitez un petit peu quand même aussi, je pense.
Mais quand je dis tout dépend des enjeux qu'il peut y avoir. Mais les coureurs qui voudraient, par exemple, comme les autres étapes, sortir au kilomètre zéro, ils vont avoir du mal à finir l'étape. Hein. Ah, ils vont avoir tout le peloton sur le dos. Hein.
Mmh. Mais oui, bien sûr.
Non, c'est pas aussi simple que ça. Vous savez, les coureurs, ils sont tous gentils quand on parle d'eux, c'est une chose. Mais un peloton, c'est un microcosme de la société. Donc il y a des bons, des méchants, des pourris, des tout ce que vous voulez.
Ah, alors qui sont les pourris?
C'est génial.
Les noms.
Bah, oui, mais
à part Christophe Cessieux qui couvre le tour.
Mais en plus, Cessieux, il fait tout pour ne pas le dire.
Oui.
Ah non, c'est l'omerta. Non, Cyril, ils sont tous gentils. Ah bon, et l'autre qui est parti dans les balustrades, il est parti tout seul?
J'adore quand tu règles tes comptes comme ça alors qu'il n'est pas là. J'adore ça, Cyril. Tiens, Cyril, on avait ce débat ce matin, est-ce que Jonas Vingegaard est un beau vainqueur? Les GG n'étaient pas d'accord. Tu dirais quoi, toi?
C'est un bon vainqueur, un beau vainqueur, c'est autre chose. Parce qu'il attire pas, la sympathie quand même. C'est pas le.
Voilà, là on est d'accord, Cyril.
Voilà, il est. Mais bon, c'est sa personnalité. Hein. Il est un peu introverti. Il sourit quand il se mord la langue. non, mais si, c'est vrai. Bon, même hier. Pourquoi il relaie pas Pogacar?
Ah ben ça.
C'est quoi son truc là? Il a pas pris de bière le soir ou quoi? Il est frustré. Alors que là, non, c'est un bon final.
Pinot revienne.
Oui, d'accord. Il avait une bière dans son maillot. Viens, Thibaut, je vais t'en donner une. Non, mais il y a eu une superbe étape hier. Bon, c'est pas le. Enfin, si, ça pourrait être aussi le sujet, mais bon, avec un Pinot qui a été éblouissant. À ce moment-là, il avait qu'à attendre Pinot pour le ramener. Il a 7 minutes d'avance, Pogacar, il pouvait le laisser partir à 7-8 bornes de l'arrivée. Mais okay. Là, il se colle dans la roue, tiens, pas un sourire, pas un mot. Bon, ça peut pas attirer la sympathie du public, ça peut pas attirer la sympathie des téléspectateurs, et y compris d'ailleurs même de nous.
Et je pense pas qu'il soit là pour ça. En vrai, je pense qu'il s'en tamponne. Je pense qu'il a rien à faire de savoir de comment on le juge, comment on le regarde. Lui, il est là pour développer du boîte. Et puis,
je pense qu'il est victime de sa personnalité. Tout simplement.
Ouais,
on peut
lui,
pas
quoi.
Dire que c'est pas un grand vainqueur du Tour de France.
Ah non, alors, mais je n'ai pas dit ça. Hein.
Corporel, le fait que ce soit beau, pas beau, on s'en moque un peu, c'est exceptionnel dans la performance.
En tout cas,
non mais non, c'est pas, on remet pas en cause la victoire sur le plan purement athlétique.
Mmh.
C'est là, on parle de qui ? On parle du personnage. Donc, ça n'a rien à voir avec le sportif.
Était-ce un beau vainqueur ? C'est la question qu'on se posait. Pour toi, c'est un bon vainqueur, un grand champion, oui, mais pas un beau vainqueur. On a bien compris. Merci beaucoup, Cyril Guimard, d'avoir été avec nous.
Merci, tu seras
avec toute l'équipe de l'Intégral Tour cet après-midi, quand même, pour cette parade ?
Je vais d'abord regarder. Je vais écouter Jean-Luc Auroy sur le Grand Prix F1. Je prendrai qu'après.
Ah oui, d'accord. Tu seras là pour le sprint. Bah, c'est parfait. T'as bien raison. Merci Cyril d'avoir été avec nous ce matin. Et évidemment, à partir de 15h, vous suivrez l'Intégral Tour avec Christophe Cessieux et toute la bande pour cette 21e étape du Tour de France. Il est 11h25. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Nous allons prendre la température de notre équipe de France de football qui dans 35 minutes affronte la Jamaïque. C'est leur entrée en lice dans cette Coupe du Monde de football. A tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
11h29 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Très heureux d'être avec vous comme tous les samedis et dimanches matin. Sachez que les GG ne s'arrêtent jamais. Nous sommes là en juillet et en août pour vous accompagner lors de vos vacances. Si vous êtes sur la route des vacances, faites toujours bien attention à vous. Et si vous avez raté les 2h30 d'émission, maintenant, n'hésitez pas à aller nous écouter en podcast. Cette émission cartonne en linéaire, comme on dit. Vous écoutez RMC, vous êtes très nombreux, mais elle cartonne aussi en podcast. Donc merci beaucoup à vous. Toujours avec Pascal Duprat ce matin, Marion Bartoli, Marie Martineau et tout de suite l'équipe de France de football. Les femmes qui vont débuter leur Coupe du Monde, c'est à midi, ça se passe à Sydney face à la Jamaïque. Un match à suivre en direct en intégralité sur RMC. Notre duo de commentateurs est là, Anthony Reich et Lise Boussaglia. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Et salut.
Coucou. Bonjour à tous.
Dans quelques instants, nous allons nous poser la question, est-ce que vous croyez au déclic sportif enfin de cette équipe de France qui a déjà fait des quarts de finale, des demi-finales de Coupe du Monde. Les joueuses l'ont dit avant la compétition, elles pensent au déclic. Mais juste avant, réfléchissez bien à ce que vous allez me dire, c'est très important. Anthony Reich, la composition, la première officielle d'Hervé Renard est tombée pour ce premier match face à la Jamaïque.
Oui, changement de schéma tactique pour Hervé Renard qui a délaissé son 4-3-3 qu'il avait mis en place depuis sa prise de fonction fin mars. 4-4-2 pour ce premier match de Coupe du Monde face à la Jamaïque, avec dans les buts évidemment Pauline Perromanian, la portière de la Juventus Turin, de gauche à droite pour la défense Sakina Karchaoui, Estelle Cascarino, la capitaine Wendy Renard et Maëlle Lacrar sur le flanc droit, au milieu de terrain Sandy Toliti et Grace Gueyoro, sur les ailes de ce milieu de terrain à gauche Amel Majri, la lyonnaise, Clara Matteo, la joueuse du Paris FC qui fait son entrée dans le 11 titulaire, et puis en attaque Eugénie Le Sommer, la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France avec 89 buts, et Khadidia Tout Diani, meilleure joueuse de D1.
Alors notre débat dans les grandes gueules du sport avant ce premier match de notre équipe de France féminine. Comme les joueuses, est-ce que vous croyez au déclic sur cette compétition ? Oui ou non ? Marie Martineau ?
Oui.
Marion Bartoli ?
J'ai envie d'y croire, donc oui.
Élise Boussaglia ?
Oui.
Ok, qui va me dire donc ? Qui va oser ? Moi je suis capable de défendre le nom. Pascal Duprat ?
Non, j'y crois.
Toi, tu y crois. Ok, Anthony Reich.
J'y crois.
Ok, très bien. Les bisounours, parfait. C'est les bisounours du sport sont là et on est là le samedi, le dimanche de 9h à midi. Alors moi, je vous opposerai quelque chose et Élise va pouvoir me répondre et peut-être me rentrer dans le lard, c'est possible. Comment on peut croire à un déclic quand on est privé de ses meilleures joueuses ? Alors là, j'aimerais le savoir parce que tout le monde le dit, l'équipe de France n'est pas favorite, mais pourtant on va penser au déclic. On a fait quart de finale en 2019, quart de finale en 2015, demi-finale en 2011 et là, on va faire croire qu'on va faire la finale, Élise ?
Ah oui, pourquoi pas ? Parce qu'on est privé de Katoto et de Cascarino. C'est pour ça que tu es un peu pessimiste.
Bah, ouais. Oui, c'est comme si les Bleus étaient privés d'Mbappé, les hommes et de Griezmann. Quoi. Enfin, je me dis, c'est compliqué, non ?
Ah, t'exagères un petit peu, parce que pour moi, Katoto, alors c'est une excellente joueuse, mais pour l'instant, en équipe de France, elle a pas encore pu montrer ce qu'elle valait. Donc pour moi, oui, son absence est préjudiciable parce que c'est une excellente joueuse, mais c'est pas comme si avant elle avait fait des grandes compétitions, des excellentes compétitions avec l'équipe de France. Donc Donc voilà, après Delphine Cascarino, c'est sûr que c'est une dynamiteuse et une joueuse explosive qui va manquer à l'équipe, mais il y en a d'autres. Donc voilà, moi je suis quand même optimiste dans le sens où heureusement d'ailleurs que je suis optimiste parce que on a du talent en équipe de France, on a du talent dans les sélections de jeunes ou en A, et bien sûr qu'il faut un déclic, et j'espère que ça va être le cas maintenant, mais j'y crois beaucoup.
Le déclic, le fameux plafond de verre. Moi, j'écoute ce que tu dis, Élise, et forcément, tu es la sachante dans ce domaine. On a tous envie de croire à cette équipe de France de football. On a envie de gagner, de remporter des trophées, surtout avec cette nouvelle dynamique, avec Hervé Renard installé depuis quelques mois. Marie, tu peux y aller. Tout le monde y croit. On vous a mis un petit bet spécial, et puis vous pouvez y aller. Vas-y, Marie.
Ah oh là là, j'ai 4 ans et demi, je suis devant la télé, voilà, je suis me lever pour changer de chaîne et tout.
Vas-y, alors
moi j'y crois parce que justement tu viens de le dire, la dynamique, et c'est vraiment un truc auquel je souscris entièrement. Et nouvelle dynamique avec Hervé Renard, certainement une libération des filles, même si je ne suis pas dans le secret des dieux et j'ai pas, mais ça paraît assez simple à observer à vue de l'extérieur. Donc même si, et oui, il va manquer Katoto, Cascarino, c'est commence à être les noms qu'on retient le mieux. Et là, on en est privé, donc... pardon.
Bah tu vois, tu t'étouffes. Tu crois même pas à ce que tu racontes. Attends. Pardon. Marie décède et revient dans quelques instants. Anthony Reich, sur ce côté mental, t'as senti une vraie différence les joueuses abordent la compétition?
Bien sûr.
Là,
bien sûr. Pour avoir suivi l'intégralité de la préparation à Clairefontaine et aussi le premier rassemblement en avril, à partir du moment où Hervé Renard a pris ses fonctions au sein de cette équipe de France, il y a eu une vraie libération. Les joueuses sont arrivées avec le sourire à Clairefontaine au début de cette prépa. On a vu des moments de bonheur, de cohésion qu'on n'avait pas vu depuis des années au sein de cette équipe de France. Ce qu'apporte Hervé Renard et son staff, c'est clairement un élément indispensable pour aller loin dans cette compétition. Et pour en avoir parlé avec beaucoup de joueuses, Amel Majri, Wendy Renard, Eugénie Le Sommer, elles sont heureuses aujourd'hui d'être en équipe de France. La cohésion est à nouveau présente. Elles sont libérées. Elles ont confiance en leur staff. Le staff a confiance en elles et ça joue beaucoup dans leur état d'esprit aujourd'hui.
C'est la base. C'est ce qui leur manquait. Et donc voilà. Et tu as parfaitement fini j'aurais eu envie de pouvoir dire. Et on connaît le talent de Renard pour ça, pour ses grandes échéances, sa capacité à leader un groupe comme ça, à les faire se sublimer, à créer ce déclic. S'il y a bien un mec qui peut leur faire décliquer, c'est certainement lui.
Il n'y a qu'à voir la toute première causerie d'Hervé Renard. Il a mis les larmes aux yeux à beaucoup de joueuses lorsqu'il a pris la parole pour la première fois à Clairefontaine. Et ça, le rôle d'Hervé Renard dans tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines va être décisif. C'est peut-être ça aussi qui manquait à cette équipe de France. Il y a des joueuses qui m'ont dit « on a envie de mourir sur le terrain pour lui ». Ce sont des phrases qu'on n'entendait pas forcément les derniers mois.
Oui, avec Corinne Diacre, donc en l'occurrence. Je vous propose d'écouter la capitaine, Wendy Renard, qui, oui, ok, un déclic, il faut franchir ce plafond de verre, pourquoi pas aller en finale, pourquoi pas gagner, mais on n'est pas favorite, Wendy Renard.
On arrive forcément caché parce que notre palmarès, il est vierge. Même si le potentiel est là, même si on a toujours eu des joueuses, et même si tout le monde a toujours vu qu'on allait gagner, mais pour l'instant, on n'a rien encore fait et le palmarès, il est vierge. Donc, il faut garder de l'humilité, mais tout en sachant qu'on a un potentiel individuel et collectif de faire mieux que par le passé.
Ne jamais avoir gagné, justement, c'est un problème, ça, Pascal ?
Fatalement. Mais cela dit, j'ai envie d'y croire parce que, eh bien, elles sont face à leurs responsabilités, puisque aujourd'hui, consensus avec le staff, elles sont toutes très heureuses d'être coachées par Hervé Renard, donc ça va les libérer, comme vous le dites tous, comme tout le monde le dit. Et puis, il n'y a pas forcément une grande pression, puisque l'objectif, demi-avoué, vous m'arrêtez si je me trompe, les spécialistes, c'était demi-finaliste de cette Coupe du Monde.
Exactement.
Alors quand on est la 5e nation au monde du foot féminin, je pense que c'est réalisable et Hervé Renard et les joueuses vont certainement montrer dès ce matin qu'elles sont candidates.
Marion Bartoli.
Absolument, sur la même lignée que tous mes copains. Effectivement, alors déjà, je pense qu'on va avoir un embryon de réponse lorsqu'elles vont affronter le Brésil le 29 juillet. Aujourd'hui, sur ce match contre la Jamaïque, je pense qu'il faudra se méfier de Khadija Cho, qui est l'attaquante de Manchester City, qui fait partie d'une des meilleures attaquantes du monde. Mais pour moi, il faudra faire le job. Elles sont quand même largement au-dessus. Mais effectivement, quand on regarde le palmarès des années précédentes, en 2019, c'est les États-Unis qui s'imposent contre les Pays-Bas. Les États-Unis vont rejouer contre les Pays-Bas en poule dès le 27 juillet. Donc, pour moi, à la fois sur la dynamique, critiques à la fois sur le tirage au sort qui a été effectué d'une manière où les grosses équipes vont déjà se retrouver dès les poules. Moi, j'y crois largement et on l'a vu dans d'autres sports et en particulier, j'aime prendre l'exemple du tennis parce que Yannick Noah, qui était un des plus grands pour moi meneurs d'hommes de l'histoire du tennis français, peut-être même de l'histoire du sport français, a été capable d'aller faire des exploits avec des joueurs qui paraissaient sur le papier avoir être nettement plus avec des gros écarts par rapport à ce que l'équipe de la France est capable de faire. Donc entre leur capacité effectivement à se transcender pour un sélectionneur, pour un pays, une cohésion retrouvée et leur qualité technique sur le terrain, je pense qu'elles peuvent largement cette année effectivement arriver à casser ce plafond de verre et à faire un très bon résultat.
Vous l'avez dit, il y a une nouvelle dynamique avec Hervé Renard qui est arrivé en catastrophe il y a quelques mois à la tête de cette équipe de France. Je vous propose de l'écouter, c'était hier juste avant le match face à la Jamaïque, Hervé Renard.
Après plus de 30 jours de préparation, on a hâte que cette compétition commence. Voilà, elle commence par un match qui est loin d'être facile. On s'est bien préparé, à nous d'aborder ce match dans les meilleures conditions psychologiques, de remporter ce premier match qui est toujours très important.
Il y a tellement d'attentes autour de cette équipe de France, tellement d'attentes depuis son arrivée. Élise, est-ce qu'il joue gros là quand même sur la compétition ?
Non, je pense pas qu'il va jouer gros sur cette compétition. En plus, voilà, il a eu que quelques mois finalement de préparation avec cette équipe, avec ce groupe. Donc voilà, pour lui, c'est un peu une compétition de découverte aussi du football féminin. Donc c'est pas évident. Après, il a tout à gagner et les filles aussi. Pour moi, elles ont pas de pression parce qu'elle l'a dit. En plus, c'est loin. Ça se joue en Océanie. C'est loin quand même du public, il y aura pas beaucoup de Français là-bas. Les médias, on en parle, mais il y a quand même pas la même pression que lors de la dernière Coupe du Monde en France. Je pense qu'elles ont vraiment tout à gagner. Elles sont libérées, elles sont heureuses. Donc je pense que voilà. Et Hervé Renard, c'est pareil. Il a tout à gagner finalement parce que il arrive comme ça, un petit peu comme un sauveur. Mais d'un autre côté, il est sans pression parce qu'il est quand même dans un monde de découverte. Le foot féminin, c'est pas le foot masculin, c'est pas pareil. Donc pour moi, c'est sa première compète et par exemple, il y aura beaucoup plus de pression et d'attente l'année prochaine pour les JO.
Oui, on ne pourra pas lui en vouloir sur cette première compétition, mais il faudra prouver dans un an, si j'ai bien compris. Ouais. C'est aussi ce que tu ressens, Anthony ?
Oui, tout à fait d'accord avec Élise. Effectivement, Hervé Renard, il a une sorte de blanc-seing de la part de la Fédération française de football. Là, il y a cet objectif des demi-finales qui a été fixé par le président Philippe Diallo, mais clairement, on le comprend, il y a eu seulement 10 jours en avril de rassemblement. C'était la découverte, la première rencontre. Il y a eu ces 33 jours de préparation là où vraiment il y a eu une vie de groupe et tout le monde a pris ses repères et la machine France s'est mise en route sous les ordres d'Hervé Renard. Mais l'objectif ultime, ce sont les Jeux Olympiques de Paris. Lorsqu'il a été intronisé, Hervé Renard, il l'a dit, il vit pour les grandes compétitions, les Coupes du Monde. Il en fait deux en six mois avec l'Arabie Saoudite chez les hommes et avec l'équipe de France. Mais il vit aussi pour les Olympiques à la maison. À Paris, c'est une occasion en or qu'on ne vit qu'une fois dans sa vie.
Ça fait tiquer Marie-Martine.
Un peu, non, mais parce que du coup, ne me remettez pas le bed des bisounours, parce que pour le coup, là, c'est vous que je trouve un petit peu bisounours quand même. Moi, je pense qu'il y a de la pression. S'il n'y avait pas eu ce tapage en amont avec Corinne Diacre, s'il n'y avait pas eu toutes ces histoires, mais là, quand même, faut pas avoir la mémoire trop courte, on est à la suite d'un espèce de révolution, de bouleversement qui a été engendré par les athlètes. Donc, c'était quand même, je ne sais pas comment dire.
Donc les joueuses
sont trop loin à l'erreur.
La pression,
maintenant,
elle est sur les frondeuses, en fait. La pression, c'est surtout sur les joueuses qui se sont mises en retrait, notamment pour faire opérer ce changement. Hervé Renard, il n'a pas le passif de cette équipe de France. Il l'a dit dès le départ.
C'est vrai, mais elle avait des beaux résultats quand même. On avait fait ce constat-là, il me semble, à l'époque.
La demi-finale de l'Euro l'été dernier.
Cela dit, Hervé Renard est extrêmement motivé parce que c'est pour lui, l'ultime reconnaissance s'il réussit avec les féminines en France. Donc il est très motivé, ça c'est très bon signe. Voilà, je lui souhaite comme vous tous le meilleur. C'est, je pense, le meilleur, de la même manière que Didier Deschamps, c'est le meilleur sélectionneur qu'ils aient pu trouver pour l'équipe de France féminine. Donc souhaitons-lui le meilleur.
Et un signe de sa motivation, quand il a su que la Fédération française de football cherchait un successeur à Corinne Diacre, lui qui gagnait des centaines de milliers d'euros par mois du côté de l'Arabie Saoudite, n'a même pas hésité une seconde pour renier son salaire par 3, par 4. il est vraiment transcendé par le maillot bleu. C'est sa mission ultime.
Et voilà, on finit toujours par parler d'argent quand même. Merci beaucoup Anthony Reich, Élise Bussaglia. On vous retrouve dans quelques instants dans l'Intégral Sport dirigé par Arnaud Valadon sur cette rencontre entre la France et la Jamaïque. Nous allons clore cette émission des GG un petit peu plus tôt que d'habitude. Merci beaucoup Marie Martineau d'avoir été avec nous.
Avec
Marion Bartoli, Pascal Duprat. Restez bien sur RMC car dans quelques instants, il y aura France-Jamaïque à 15h. Il y aura Lewis Hamilton en pôle pour ce Grand Prix de Hongrie, mais également le Tour de France, la 21e et dernière étape avec l'arrivée sur les Champs-Élysées. Après-midi de feu sur RMC. Je vous remercie, vous, les auditeurs, de nous suivre toujours aussi nombreux pour les grandes gueules du sport. À partir de la semaine prochaine, vous retrouverez Simon Dutin à ma place. J'en profite aussi pour remercier chaleureusement notre producteur Pierre Amiche. C'était ma dernière avec lui aujourd'hui, Pierre Amiche, mon ami qui continuera dans cette émission. Il sera là pour l'homme heureux, pour l'homme en colère, mais il ne sera plus aux manettes de cette émission, donc je l'embrasse très fort pour ce travail et merci de m'avoir accompagné durant 3 ans. On sera de retour à la rentrée pour une 12e saison des grandes gueules du sport. La semaine prochaine, je le disais, il y aura Simon Dutin. Il est 11h44 et tout de suite Arnaud Valadon pour ce France-Jamaïque.
Merci Jean-Christophe, salut, on arrive dans un instant. Bonjour, merci à toi, merci à Pierre, à toute l'équipe des grandes gueules du sport. Dans un peu plus d'un quart d'heure, le coup d'envoi du premier match de l'équipe de France féminine à la Coupe du Monde à Sydney, France-Jamaïque. On sera avec Élise Bussaglia, avec Fleur Jaffrelot, journaliste et ancienne joueuse de D1 D2, et Anthony Reich au commentaire. Vous pouvez déjà laisser vos messages d'encouragement sur le hashtag RMC Live et l'appli Direct Studio. On arrive donc le coup d'envoi dans un quart d'heure de France-Jamaïque à la Coupe du Monde.